nous allons commencer cette première séquence d'un cycle qui va en compter 4, donc qui va regrouper donc, sous le terme de hyperliaison dangereuse, un ensemble de conférences qui vont avoir à voir avec le monde du numérique, avec un point de vue qui est, entre guillemets, le mien, adopté depuis donc, le point de vue d'un chercheur en sciences de l'information et de la communication, et quelqu'un qui passe un petit peu de temps dans les univers numériques, à voir un petit peu comment ça fonctionne, à les utiliser, et puis à faire de la formation autour de ces environnements-là. Le thème de ce soir, on va parler sexe, entre autres, pas mal. Clickly Tender, alors c'est une conférence que je reprends et que j'augmente d'une version que j'avais faite il y a quelques années, ça, à l'UTA, mais à laquelle j'ai intégré des nouvelles choses et de nouvelles réflexions qui ont progressé entre temps, quelques nouvelles illustrations. Pour les illustrations, en règle générale, il va y avoir des illustrations à caractère sexuellement marqué, mais pour certaines, j'ai utilisé des outils qui permettent d'escamoter certaines parties du corps des protagonistes qui peuvent se trouver sur les photos. De quoi les anonymiser aussi dans certains cas. Voilà un petit peu pour ces petites précautions. Alors un petit peu, une petite vidéo un petit peu pour introduire ce thème. Bon, certains la connaissent déjà. Voilà, donc une petite vidéo pour introduire qu'on est dans un environnement où le numérique a changé les relations entre les personnes, et en particulier sur tout ce qui est du côté de l'amour et de la sexualité, que aussi bien nos modes d'échange autour de l'amour et de la sexualité, que nos pratiques, que nos façons de nous rencontrer, nos façons d'en parler, de le montrer, etc., ont évolué au cours de ces dernières années de façon conséquente. Mais ce qui m'intéressera aussi, au travers de cette conférence, c'est de vous faire aussi un petit retour sur cette idée que la sexualité sur Internet, eh bien, c'est pas simplement un contenu qu'on trouve sur Internet, mais c'est un élément qui a été fort pour influencer le développement d'Internet. Que ça a joué un rôle prépondérant dans l'adoption d'un certain nombre de technologies, dans l'adoption de formes d'usage et d'appropriation, et que tout ce qui tourne autour de la sexualité, de la pornographie, eh bien, a joué un rôle massif à l'intérieur du développement d'Internet. Alors, quelques chiffres. Ici, 12% des sites Internet sont des sites qui ont quelque chose à voir avec la sexualité. Et quand on dit 12% ici, c'est plutôt des sites à vocation explicite. Quand on dit 18 millions de sites, eh bien c'est à un instant T, mais c'était il y a 2 ans et ça continue d'augmenter. Que 25% des requêtes sur les moteurs de recherche sont à caractère sexuel et pornographique. Que 1/4 du chiffre d'affaires de Google est généré par tout ce qui touche à la sexualité. Alors quand on dit 1/4 est généré, c'est pas directement auprès de Google, mais c'est par le biais des annonceurs, par le fait aussi que les gens venant sur le moteur de recherche pour faire un certain nombre de recherches, ils vont être soumis à la publicité qu'il y a sur les sites de Google, cliquer sur les bannières, et de cette façon-là, eh bien, ça attire du monde. Donc ça veut dire que les moteurs de recherche vont mettre en place des technologies qui permettent de filtrer une partie des contenus, mais ils continuent à indexer des contenus pornographiques. Et il est relativement aisé de transformer eh bien, la plupart des moteurs de recherche sur les vidéos, par exemple, de désactiver simplement la fonction de protection des publics mineurs, et vous transformez à ce moment-là votre moteur de recherche, quel qu'il soit à peu près, en un YouTube du porno. Juste à mettre quelques petits mots qui vont bien avec. 35% des téléchargements, donc ça c'est un truc sur lequel on reviendra, c'est une grande partie de la bande passante d'Internet qui est occupée, même si depuis 2 ans, les réseaux sociaux ont dépassé a priori, en termes de volume d'utilisation, le secteur de la pornographie. Mais sous réserve qu'on considère que les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la sexualité. 30% des sites les plus populaires du top 100 sont des sites à caractère sexuel explicite. Vous avez quelques sites qui permettent comme ça d'avoir des retours d'audience. Et donc, ça veut dire que vous en avez effectivement, là encore, des sites qui drainent une audience qui est considérable. 50% des internautes américains adultes passent 1 à 10 heures par semaine à consulter des contenus pornographiques. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec les internautes européens. Pourquoi connaît-on Paris Hilton ? Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Paris Hilton était relativement inconnue, mais elle a été l'une des porteuses d'un genre audiovisuel qui s'est développé, celui de la sextape. C'est-à-dire se filmer avec son petit copain en train de filmer leurs ébats. Elle n'est pas la première à l'avoir faite. Déjà à la fin des années 90, il y avait une personne sur Internet qui avait son nom dans le top 50 des recherches et son prénom. Il y avait une seule personne qui avait lié de nom et prénom dans le top 100 des recherches. C'était Pamela Anderson, qui a été la première à laisser circuler sur Internet des vidéos de ses ébats avec ses petits copains. Donc, en termes de popularité, il y a des gens qui ont gagné leur notoriété là-dessus. Il y a des gens qui les fabriquent, qui les laissent faire. Et ce style-là a aussi eu son influence, y compris dans les médias télévisuels, puisque ça fait partie des choses qui ont alimenté le phénomène de la télé-réalité. Et on ne peut pas penser au Loft et ce que ça a enclenché derrière, et la scène dans la piscine du Loft, sans penser à ces logiques de sextape. Donc ces images entre guillemets volées, qui ne sont pas forcément des images volées, puisque dans l'extrait qu'on vient de voir, on n'est pas dans des images volées. Elle est parfaitement consciente qu'elle est en train de se faire filmer, voire même, elle est complice de la diffusion qu'il va y avoir derrière. Donc encore quelques chiffres. 30 000 chaque seconde, vous avez 30 000 internautes à peu près qui sont sur les sites à caractère sexuel et qui dépensent environ $90. On verra à l'intérieur de la présentation, j'expliquerai quelques rouages économiques qu'il y a autour de ces systèmes-là, comment ils peuvent faire une partie de leur business. Que le mot sexe est le plus recherché, qu'il y a près de 300 sites par jour qui sont nouveaux, qu'il y a un chiffre d'affaires qui est conséquent, qui est un des plus importants, qu'aujourd'hui, même si le rééquilibrage se fait, il y a quand même une forte disparité en termes de consultation, avec 28% de femmes et 72% d'hommes, avec un trafic, 70% du trafic, donc quand je disais que ça représente une grosse partie du trafic, selon en plus les technologies qui sont utilisées, les trafics sont plus ou moins importants, mais je tiens ça de quelques copains qui font de l'hébergement, qui gèrent du trafic internet, et où depuis des années, ça constitue la plus grande partie du trafic en volume. Un site comme Xvidéo, c'est plus de 4 millions de vidéos qui sont en ligne. Et puis, ça, ce n'est qu'une réduction de l'amour de la pornographie. On peut étendre autour, le noyau dur d'un internet qui serait rose. Alors, cette idée que internet est un nouvel intermédiaire dans les relations sexuelles et les relations amoureuses, je vais refaire un bref petit retour sur le fait que c'est pas complètement nouveau, que l'histoire des cavernes jusqu'à nos jours a toujours été illustrée de la fascination ou du fantasme On y mettra ce qu'on aura envie de voir, mais que, en tout cas, la représentation de la sexualité, l'expression de l'amour physique, y sont depuis très longtemps. Je ferai ensuite une partie qui sera un petit peu plus branchée sur la dimension Internet et voir un petit peu comment il y a eu quelques évolutions en l'espace maintenant d'une vingtaine d'années, puisque en 20 ans, l'univers rose d'Internet a changé, a évolué. Et au travers des évolutions de cet univers, c'est pas simplement les évolutions de cet univers-là, mais c'est aussi en parallèle et de façon parfois paradoxale, les évolutions de nos propres pratiques du numérique en réseau et du numérique tout court. Je m'intéresserai ensuite, moi j'ai fait une erreur dans mon truc, mais aux entre-netteurs, donc j'évoquerai les sites de rencontres. Un petit point sur l'économie, et puis peut-être cette idée du libertinage. Donc on est dans une ère où il y a une démonstration, une visibilité, une présentation de la sexualité qui est importante, variée. D'où l'idée que dans le titre, ce n'est pas dans le titre de la plaquette, parce que j'ai mûri les choses entre temps, mais que le titre va parler de sexualité au pluriel et d'amour au pluriel. Ce que laisse évoquer un petit peu le fond aussi du diaporama. Donc on est dans une époque où il y a différentes choses qui sont représentées. Et puis en dernier, c'est les mythes. Alors les mythes, ce n'est pas des histoires de dieux qui sont tombés sur quelque chose ou d'autre. Ce n'est pas le Massachusetts Institute of Technology. C'est les maladies informatiquement transmissibles. Donc, cette idée que la sexualité dans les médias, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, je vais oser un premier titre qui était le paléonanisme, parce que je voulais essayer de replacer une photo de vacances quand j'allais visiter un site magdalénien, et de voir que déjà à l'ère magdalénienne, eh bien, on avait des représentations de la sexualité qui étaient fréquentes sur les murs, même si dans les lieux de visite, si vous allez par exemple à Tarascon sur Ariège, on a des représentations des grottes, mais avec certains passages qui ne sont pas très explicités aux visiteurs, mais qui sont très explicites pour ceux qui visitent. Que les libraires du XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, eh bien, le monde de la librairie s'est développé, en particulier grâce à l'érotisme et la littérature pornographique. Et que la plupart des auteurs de l'époque des Lumières, eh bien, écrivaient aussi des livres à caractère coquin, à caractère pornographique. Puisque c'était un très bon moyen de financer les imprimeurs. Et que dans aussi bien leurs écrits philosophiques que les écrits érotiques, étaient mis à l'index, étaient condamnés, étaient censurés, et donc circulaient en France par des chemins clandestins. Et c'était les mêmes personnes qui faisaient circuler ces livres qui étaient imprimés en Suisse ou en Hollande et qui arrivaient sous le manteau en France. La Hollande reste encore aujourd'hui un gros pourvoyeur de produits à caractère érotique. Le cinéma, eh bien, dès l'invention du cinéma, une des premières utilisations du cinéma, eh bien, c'était dans les bordels. Puisque ça permettait de faire patienter et ça permettait aux clients de s'échauffer dans les salles d'attente avec des petits films pornographiques qui étaient diffusés. Là encore, on était dans une industrie eh bien, qui fonctionnait et qui générait des revenus. Le succès du Minitel, ben, il est lié avant tout au Minitel Rose. Le Minitel Rose qui est un détournement au départ du fonctionnement du Minitel. C'est une fonction qui a été découverte par hasard par les utilisateurs de la possibilité qu'ils pouvaient avoir de communiquer entre eux. Et qu'on a retrouvé au travers du Minitel une pratique qui existait déjà. Certaines personnes dans la salle ont dû en entendre parler, lorsqu'il y avait ce qu'on appelait dans le réseau. Le réseau qui fonctionnait avec les téléphones des administrations à certaines heures, il y avait certains numéros qui permettaient à plusieurs personnes de parler en même temps, de se donner des rendez-vous, et d'avoir de cette façon-là un certain nombre d'échanges à caractère libertin qui débouchaient ou non sur des rencontres. Le Minitel va reprendre cette logique-là, et c'est le premier service Minitel qui va véritablement rapporter de l'argent. Je ne vais pas dire que c'est le seul qui aura rapporté de l'argent pendant toute la vie du Minitel, mais il en aura bien rapporté, et en témoignent les trésors de guerre qu'ont pu constituer à ce moment-là les opérateurs, les principaux opérateurs du Minitel Rose, à savoir l'opérateur historique en France, puisque l'opérateur historique gagnait des deux côtés à l'époque, puisque les services qui proposaient des messageries roses devaient payer un forfait auprès de l'opérateur historique, qui était le seul à gérer l'interconnexion sur le réseau. Et les utilisateurs, lorsqu'ils utilisaient un 3615, ils payaient une partie du temps au fournisseur de services, mais une partie du temps de connexion aussi allait directement dans les poches de l'opérateur historique. Pour rappel, quand même, à l'époque, on avait quand même une logique économique qui était très particulière et qui n'incitait pas à la qualité. C'est vrai que la technologie, vous en avez une petite capture d'écran en bas, elle laissait de la place à la capacité d'imaginer, parce que la représentation était quand même pas très crue. Mais à côté de ça, il y avait un modèle de financement du système qui marchait autant au Minitel, enfin à l'époque du Minitel. On payait sa connexion, le 3615, à la durée. Résultat des courses. Plus on mettait longtemps à afficher une image, plus le prestataire s'enrichissait. Ceux qui ont constitué ce trésor de guerre, vous savez, effectivement, je vous l'ai dit, l'opérateur historique, il y en a un autre qui a fondé quelques années après qui est devenu quelques années après un fournisseur d'accès à Internet. C'était le groupe Iliad, qui a donné naissance à Proxad, et donc à Free.fr. Et Free.fr, donc, a pu être un prestataire, un fournisseur d'accès totalement indépendant, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont ouvert leur service, et encore aujourd'hui, ils sont actionnaires très majoritaires de leur entreprise, c'est parce qu'ils avaient constitué un trésor de guerre à l'époque du 3615. Ils ne sont pas les seuls. La presse française a énormément bénéficié du Minitel Rose. Parce que pour pouvoir avoir un service de Minitel Rose, il fallait être reconnu comme étant un organisme de presse autorisé à diffuser de l'information. Donc tous les services de messagerie rose s'appuyaient sur des titres de presse. Soit certains étaient créés de façon fictive, mais tous les grands titres de presse avaient des services de Minitel Rose qui portaient pas forcément le nom du journal, de la presse, mais en attendant, qui rapportaient des sous aux titres de presse. Donc vous comprenez qu'en France, on a tardé à rentrer dans l'ère Internet parce que nous avions un modèle économique de diffusion d'informations qui était très rentable pour tous ceux qui étaient opérateurs de Minitel et qui voyaient d'un très mauvais œil arriver un Internet dans lequel il y aurait une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de contenu et un contenu qui deviendrait gratuit, en partie. Le VHS a aussi eu ses heures de gloire et tous ceux qui connaissent des personnes qui ont tenu des vidéoclubs savent très bien que le rayon qui rapportait le plus d'argent dans les vidéoclubs, que ce soit au Chélard, au fin fond de l'Ardèche, ou que ce soit à Lyon, c'était le rayon qui était tout au fond, où les enfants n'allaient pas parce que le rayon de Mickey était devant. Là, vous remplacez le M par un N, et vous avez le rayon des adultes. Donc, à partir des années 80, on a aussi Canal+, qui, par le fait de la chaîne cryptée, va introduire la sexualité à la télévision, avec plein de gens qui vont même, quand ils ne payent pas, essayer de regarder avec une passoire, le premier samedi du mois, vers minuit, le film qui est à l'époque encrypté. Il y a toute une pléiade de magazines qui, eux, vont subir quand même assez fortement l'arrivée d'Internet, même si un certain nombre d'entre eux se seront reconvertis dans l'industrie télévisuelle et surtout dans tout ce qui va être chaîne à péage, chaînes qui vont être sur les réseaux câblés, etc. Les canaux de transmission. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur certains, mais c'est cette idée que Internet, c'est pas structuré autour de la diffusion pornographique, mais que la diffusion pornographique, a quand même été très présente dans l'évolution des technologies qui ont été mises en œuvre. Déjà pour une raison bien simple, et dans les années 90, j'ai souvenir qu'il y avait un serveur FTP en Hollande qui hébergeait des photographies pornographiques. L'un des intérêts était éventuellement de distribuer des photographies, mais un des intérêts aussi pour les techniciens à l'époque, c'était qu'à partir du moment où il y avait un site, un espace, où il y avait des contenus à caractère pornographique, ça permettait de mesurer la capacité du réseau à résister à la charge. Parce que vous aviez beaucoup de connexions simultanées. Parce que c'est le seul moyen d'avoir effectivement plein de monde qui vont essayer de récupérer des contenus. Et à partir de là, ça permet de faire des crash tests de façon réelle avec un public qui vient solliciter les machines et solliciter le réseau. Je reviendrai après sur l'idée donc de cette première génération. Et puis un petit peu après, je reparlerai aussi en particulier du peer-to-peer et de l'ADSL. Ou de l'ADSL et du peer-to-peer. La relation qu'il va y avoir entre les deux, en reprécisant bien sûr ce que c'est que le peer-to-peer. Ceci étant, j'en profite au passage, si quand même des fois il y a des termes qui vous paraissent complètement à côté de la plaque, vous pouvez noter dans un coin pour qu'on en discute à la fin, mais vous pouvez aussi essayer de m'interrompre. Je regarde et je m'arrête, et puis j'essaie de ne pas oublier où j'en suis. Donc on parlera aussi un petit peu du streaming. Le streaming, c'est l'idée de la diffusion en flow, en flux. Ce qui nous changera du peer-to-peer, parce que l'époque du peer-to-peer, c'est les échanges entre personnes. Et le peer-to-peer, ça veut dire qu'on va récupérer les contenus et les regarder. Lorsqu'on est en streaming, on les regarde directement. Donc, ça impliquera des changements technologiques, mais aussi des changements de pratiques. J'évoque le courrier électronique. Parce que le courrier électronique, reste encore et toujours sur Internet le meilleur outil de réseautage social. Et derrière le côté réseautage social, c'est la capacité des gens à échanger entre eux, à se retrouver, etc. Même à l'heure des réseaux sociaux, le courrier électronique reste encore la technologie la plus adaptée pour les échanges entre personnes. Et ce, d'autant plus que, grosso modo, dans un courrier électronique, on sait à peu près à qui on l'envoie, alors qu'aujourd'hui, quand on est inscrit dans un réseau social, on n'est pas toujours certain de qui peut voir son email. Donc, thème au service de l'innovation, je l'ai évoqué, et puis on va voir que ça va aussi, alors vous voyez ce petit truc, motivation à l'auto-formation, parce que, effectivement, beaucoup de gens ont appris ce que c'était qu'une pièce jointe en recevant les diaporamas du calendrier d'une marque de voiture célèbre italienne. Les calendriers Pirelli. Les calendriers Pirelli ont beaucoup aidé les garçons à savoir comment ouvrir une pièce jointe et comment la lier avec leur diaporama. Les calendriers du rugby ont aidé d'autres publics à maîtriser là aussi certaines techniques. Alors qu'il était très difficile à cette époque-là de proposer aux gens d'aller suivre une formation pour Internet. parce que ça allait encore être un truc compliqué à suivre, alors qu'ils avaient beaucoup de travail à faire, alors que manifestement, les pièces jointes, eh bien, elles ont permis aux personnes de s'approprier les technologies du web. Elles ont fait aussi que, jusqu'au milieu des années 90, on reconnaissait très bien le bureau du chef de service à l'intérieur d'une entreprise, ou plus exactement du patron à l'intérieur d'une entreprise ou d'une administration. Il était facile à identifier. C'était le seul bureau où il n'y avait pas d'ordinateur, puisqu'un patron n'avait pas à mettre les mains dans le cambouis. Mais il a commencé à recevoir du courrier électronique. Et même si la secrétaire, dans son titre même, a le mot de secret, eh bien, quand on commence à recevoir effectivement les calendriers Pirelli, ou qu'on a envie d'envoyer des trucs marrants à ses copains ou à ses copines, eh bien, petit à petit, on va se mettre à avoir un ordinateur. Et donc, Internet a fait arriver une technologie qui, jusque-là, servait avant tout à communiquer, à gérer, à calculer dans une entreprise. Et avec l'arrivée d'Internet, et probablement, alors on pourra me dire le contraire, mais probablement avec une place laissée à la sexualité, l'utilisation détournée de la machine à des fins fantasmatiques personnelles, eh bien, fait qu'à un moment donné, tout le monde s'en est emparé. Quand je dis tout le monde s'en est emparé, c'est qu'au milieu des années 90, il m'arrivait très fréquemment qu'on me demande de dépanner une machine dans un bureau ou un autre. Et que, en règle générale, quand j'ouvrais certains répertoires pour voir qu'est-ce qui pouvait bien faire en sorte que la machine ne fonctionne pas, il y avait des petits fichiers qu'on appelle des cookies qui avaient des noms particulièrement explicites, du type sex.com, porno.ceci, etc., etc. En général, j'avais droit à une réponse de la personne qui était derrière moi. Ah ben, je vois que le stagiaire ne s'ennuie pas. Les newsgroups FTP et web. Alors ça, c'est l'idée que on est dans la toute première partie de l'Internet. L'Internet, je dirais, d'avant l'an 2000. L'Internet avant l'an 2000, c'est un Internet auquel on se connecte avec un modem qui passe par la ligne téléphonique. Je vous fais pas le bruit, mais ceux qui l'ont connu ben, se rappellent qu'il y avait un bruit de connexion particulier. Et à cette époque-là, quand on se connectait à Internet, on n'y restait pas longtemps. Parce que on payait en fonction du temps qu'on passait connecté. La pratique, à ce moment-là, était de faire une consultation asynchrone d'Internet. Consultation asynchrone d'Internet, c'est-à-dire que, un, on se connectait pour récupérer l'information sur notre ordinateur. On déconnectait, on consultait notre information, éventuellement, si c'était du courrier électronique, on y répondait, mais le courrier était stocké sur notre ordinateur, jusqu'à notre prochaine connexion, où il était, vu qu'il avait été mis en queue, il était envoyé à l'autre, aux autres utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il y avait des contenus qui n'étaient pas gourmand en ressources. C'était éventuellement des petites images, essentiellement du texte. À cette époque-là, sur Internet, ceux qui ont utilisé les premiers navigateurs web de l'époque, Mosaic, Netscape, eh bien, à cette époque-là, on avait une fonctionnalité sur les navigateurs qui permettait de désactiver l'affichage des images sur les sites web. Parce que c'était particulièrement pénible d'arriver sur un site web où on passait plusieurs minutes à charger des images, qui étaient donc plusieurs minutes pendant lesquelles on payait. Donc, on avait cette pratique-là. Il y avait peu de monde, et donc tout ce qu'il y avait sur Internet, c'était avant tout des gens qui s'en servaient parce qu'ils avaient besoin de communiquer entre eux, parce qu'ils avaient besoin d'échanger des contenus, mais qui étaient, je dirais, des contenus geeks, des contenus informatiques, des contenus éventuellement, à cette époque-là déjà quand même, pour des chercheurs d'échanger des textes et quelques informations, mais on n'avait pas une économie qui existait sur Internet. On commençait à avoir quelques sites vitrines, mais côté érotisme, il y avait essentiellement des sites où on pouvait trouver quelques images, et pas des grosses images. pas des galeries d'images. Vous aviez aussi quelques sites où on pouvait trouver des histoires que les gens écrivaient et qu'on trouvait notamment à l'intérieur du truc qui étaient les newsgroups. Donc les newsgroups, ça ressemble à cette époque-là au forum qu'on a aujourd'hui. Mais là encore, on avait des technologies particulières. C'est qu'un newsgroup permettait de découper une ou plusieurs images en plusieurs fichiers et sur un newsgroup, eh bien, on cochait un fil de discussion qui allait importer toute la discussion. Mais là encore, on ne voyait pas forcément ce qu'on téléchargeait. Et puis à côté de ça, eh bien, il y avait une faible quantité de contenu qu'on pouvait télécharger à chaque fois. Les newsgroups étaient quand même des lieux où les gens pouvaient se raconter des histoires, pouvaient créer des jeux, entre guillemets, des jeux de fiction où ils travaillaient, où ils écrivaient ensemble. Ça change avec l'arrivée du peer-to-peer. Donc je rappelle, le peer-to-peer, ça apparaît à la fin des années 90 avec un logiciel qui s'appelle Napster. Et ce logiciel qui s'appelle Napster va permettre aux gens d'échanger des fichiers directement les uns avec les autres. Avec un logiciel qui est ultra simple d'emploi. Quand on dit ultra simple d'emploi, c'est que je pense qu'en la matière, grosso modo, on n'a pas fait mieux depuis. Il avait tout au départ. Et le principe, c'est qu'on disait simplement où est-ce que sur notre ordinateur, il y avait des fichiers qu'on voulait partager avec le reste de la planète. Et puis ensuite, il y avait un espace où il y avait un petit moteur de recherche dans lequel on indiquait quelles étaient les choses qu'on voulait écouter. Et je dis écouter parce que depuis Napster est d'abord fait pour écouter de la musique. Il est d'abord fait pour écouter de la musique, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, à l'époque, on a un débit, une connexion, je vous le rappelle, qui est via le modem. Via le modem, ça veut dire que lorsqu'on va télécharger un morceau de musique, qui va durer 3 minutes, le téléchargement va durer approximativement une vingtaine de minutes. Et je vous rappelle qu'on paye au temps de connexion. Donc, ça va bien quand on est un fan et qu'on veut retrouver un morceau, parce que ça nous amuse d'échanger des morceaux entre copains, mais économiquement, c'est pas super rentable. Pensez qu'à l'époque, quand on utilise Napster, on télécharge un album entier, ça va vous prendre une heure et demie. Ce qui va donc vous dire que ça va vous coûter à peu près 5 euros de téléchargement. À l'époque, on n'a pas encore les lecteurs MP3. On n'a pas des disques durs qui font des kilomètres de long. Donc, quand on a nos 12 morceaux de musique, eh bien, on va les graver. Donc, il faut acheter le CD vierge sur lequel on va graver. Si à côté de ça, vous êtes psychorigide ou vous aimez les choses bien faites, choisissez votre camp, eh bien, vous allez mettre ça dans une petite boîte avec une pochette imprimée en couleur. Donc, autant vous dire qu'au final, ça nous a coûté pratiquement le prix d'un CD qu'on aurait acheté dans le commerce. L'avantage, c'est qu'à cette époque-là, vous pouvez trouver aussi des morceaux de musique qui sont introuvables dans le commerce. À cette époque-là, on peut trouver sur les réseaux Napster des choses qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement. Mon exemple systématique, c'est la face B de Sur la route de Michel Coringe. Amusez-vous à trouver ça sur une plateforme de téléchargement légale aujourd'hui. Eh bien, en 99, vous le trouvez sur Napster. Donc, le peer-to-peer facilite ces échanges-là. Mais le peer-to-peer va avoir un impact particulier, parce qu'à cette époque-là, on a l'apparition d'une technologie particulière qui est l'ADSL, et qui va faciliter la connexion à haut débit. Cette connexion à haut débit, jusque-là, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à le faire. Je vous rappelle qu'on n'est pas si nombreux que ça à se connecter à Internet, que ce qu'on utilise principalement, c'est le courrier électronique. Le courrier électronique, ça marche avec « je me connecte le matin pour récupérer les messages qui ont pu arriver dans la nuit, je me déconnecte, je réponds assez vite fait dans la matinée, parce qu'à cette époque-là, je suis content quand j'ai reçu 3 mails. Je dis « chouette, j'ai des amis. » Aujourd'hui, c'est ce que je reçois le temps de répondre à un seul. Je dis « mince, j'ai des étudiants. » J'ai trop d'amis. Donc j'essaie d'être désagréable, mais ça ne suffit pas. Donc, on se connecte, on répond, on se reconnecte en fin de matinée pour envoyer des messages auxquels on a répondu et éventuellement recevoir quelques autres. Donc celui qui se connecte beaucoup à cette époque-là, il se connecte 3-4 fois dans la journée. Lorsque je vais commencer à faire du peer-to-peer, ça va me coûter cher, mais le temps que je suis en train de télécharger mon morceau de musique, eh bien effectivement, je suis connecté. Je vais pouvoir faire des choses sur Internet, puisque je suis déjà connecté, en train de récupérer des trucs. N'empêche que ça commence à me coûter des sous. À ce moment-là, apparaît une technologie qui va nous intéresser très fortement quand on fait du peer-to-peer, parce qu'on est les seuls à avoir vraiment besoin d'aller sur Internet, parce que là, effectivement, on a de gros contenus à récupérer. Et la DSL va nous intéresser parce que ça va nous permettre de récupérer vite et moins cher, surtout bien moins cher, du contenu. Je dis surtout bien moins cher, en tout cas pour les Français. Ce n'est pas le cas pour les Américains. Les Américains vont mettre beaucoup plus longtemps que les Français à passer au peer-to-peer. Parce que les Américains ont la connexion téléphonique locale, illimitée, à prix constant, quasiment gratuit. Donc, télécharger un album, si ça prend la journée, ben ça prend la journée. Ils s'en fichent, ils sont au travail. Donc, ils démarrent le téléchargement le matin, ils vont bosser, ils viennent le soir, et boum, il n'y aura rien coûté de plus. Nous, en France, où on fonctionne avec une connexion via le réseau téléphonique qui nous coûte toutes les minutes, le jour où un opérateur nous dit « Vous allez télécharger 20 à 30 fois plus vite, et ça va vous coûter 30 euros pour le mois. » À une époque où moi j'en avais pour à peu près 500 euros par mois quand je faisais du... Et bien vous vous dites que ça va vous changer la vie. Ça va changer votre vie, le portefeuille. Et par-dessus le marché, vous allez pouvoir vous re-socialiser avec votre téléphone parce que quand on était connecté via la voie la ligne téléphonique, les gens ne pouvaient plus nous appeler. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas encore tous un téléphone portable systématiquement. Donc tant qu'on faisait de l'Internet, les gens ne pouvaient pas vous joindre. Donc on va changer ici de mode de communication avec l'extérieur. La DSL va donc être portée par le peer-to-peer, et la DSL, en augmentant le volume et la vitesse de téléchargement, eh bien, va changer aussi les contenus qu'on va télécharger. Jusque-là, on ne téléchargeait que des morceaux de musique. À partir du moment où on a la DSL, eh bien, on va mettre 2 heures, 3 heures, selon le système et puis le bon endroit où on va, pour récupérer un film. Et donc, du coup, ça n'est plus un album qu'on télécharge, mais un film. Et un album et un film, ça prend 10 à 30 fois plus de place sur un disque dur qu'un album de musique. Donc on est en train de changer de pratique. On est en train aussi d'avoir tout le monde qui dit « Ah ben finalement, c'est vachement bien Internet. C'est vachement pratique. » À l'époque, on fait de la publicité qui dit qu'on peut télécharger super vite un film sur Internet, y compris quand on est un opérateur national historique. On le fait. Jusqu'à ce qu'on finisse par vous taper sur les doigts. Mais en attendant, à ce moment-là, c'est un vecteur majeur pour amener et démocratiser l'accès à Internet. L'intérêt pour tous. Tout le monde voit très bien l'intérêt qu'il peut y avoir de récupérer le samedi matin le dernier film de Disney pour le regarder le soir, ou filer à regarder le soir aux gamins des copains et à nos gamins à nous, quand on va vouloir discuter dans le salon. Et c'est valable pour tous les types de contenus. La DSL va aussi changer un truc, c'est qu'on est en connexion permanente. Connexion permanente, on va sortir de ce monde de la synchrone. Cette habitude, de cette pratique qu'on avait à récupérer un contenu et le regarder après. On va progressivement basculer dans le monde du synchrone. Et derrière le monde du synchrone, c'est le monde du streaming. Le monde du synchrone, c'est-à-dire la communication personne à personne. C'est parce qu'on va avoir la DSL qu'on va se mettre effectivement à chatter pendant très longtemps. Parce qu'on peut parler toute la nuit à quelqu'un, ça ne nous coûte rien. On va pouvoir se mettre à échanger en visio des trucs avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, parce qu'effectivement, échanger en local et en vidéo, eh bien ça ne coûte plus rien avec différents logiciels qu'on va commencer à avoir à l'époque. Donc, on entre dans une ère où on passe dans une communication instantanée et directe. le peer-to-peer, avec ici un exemple d'utilisation du peer-to-peer. C'est un dispositif qui a été monté dans un musée, qui s'appelle le Pirate Cinéma. Alors ce dispositif de Pirate Cinéma, je vous l'explique en deux temps trois mouvements comment il fonctionne. Vous avez ici par terre, en fait, des ordinateurs qui sont connectés au réseau de peer-to-peer qui s'appelle The Pirate Bay. Donc The Pirate Bay, ça mériterait tout un temps qu'on discute de Pirate Bay, mais le principe de Pirate Bay, c'est un réseau d'échange entre pairs qu'on appelle un réseau torrent. Le réseau torrent, c'est qu'il y a des gens qui déposent une amorce sur le site Pirate Bay, pour simplifier, et puis d'autres personnes qui ont le fichier de cette graine qui est déposée. Ceux qui vont le vouloir vont aller sur ce serveur-là pour avoir cette empreinte qui va les mettre en relation avec toutes les personnes qui ont les autres morceaux du fichier. Ce que va faire ce dispositif, c'est qu'en fait, chaque personne va envoyer des petits bouts du fichier à la personne qui reçoit. Ce que fait ce dispositif-là, en fait, c'est qu'il est branché sur le réseau BitTorrent, qui est utilisé par Pirate Bay, et ce qu'il va afficher sur les écrans en permanence, ce sont des fragments de morceaux qui s'échangent entre les internautes. Ça nous amène à constater qu'aujourd'hui, plus de 30% du trafic de Pirate Bay est du trafic à caractère pornographique. Ce qui veut dire que le gars, quand il fait son exposition, donc Nicolas Maigret, eh bien, il le fait dans des endroits où c'est quand même filtré en termes de public, puisque on prend des bribes d'images, des morceaux de vidéos, et ces morceaux de vidéos sont affichés sur différents écrans qui constituent le dispositif. Donc on voit un coup un extrait d'Indiana Jones, un coup un extrait d'un documentaire, et puis pas seulement d'un documentaire. Streaming et webcam, eh bien c'est là où on en arrive aujourd'hui, avec une offre qui devient une offre pléthorique. Où aujourd'hui, il y a une offre qui est considérable. Et quand on dit considérable, c'est rien de le dire. Les sites que vous avez en bas sont des sites où il y a du partage de vidéos. Celui-ci, c'est celui-ci, je vous ai dit qu'il y a plusieurs millions de vidéos dessus. Ça veut dire que ce site est en consultation gratuite. Ça ne coûte rien. Les vidéos ne sont pas toujours de très bonne qualité. Mais si c'est pour une pratique onaniste, souvent c'est suffisant. Et ces sites-là vont vivre en partie de la publicité, et parce qu'ils sont aussi affiliés à d'autres réseaux qui vont permettre d'avoir les contenus, eh bien, a priori, ce qu'on pourrait dire, en bonne qualité, en haute définition, en HD. Et là, ça fait plaisir à notre ministre du redressement productif, puisque c'est du Made in France. C'est aussi un truc qui est particulièrement intéressant, c'est que du côté des sites à caractère effectivement pornographique, eh bien on a tout un tas d'industries localisées qui ont continué d'exister, se développer, et qui ont des marchés qui se répartissent différemment. J'y reviendrai peut-être un petit peu, notamment si vous avez des questions à me poser, mais on a des marchés de niche culturelle. Alors quand je dis culturel, c'est tout linguistique. Mais où on va avoir effectivement un réel marché français. Un marché, en tout cas francophone. Mais pas que francophone, parce que les gens vont faire la différence entre les films qui sont pour les Québécois puis les films qui sont pour les Français. Parce qu'on ne parle pas la même langue, on ne fait pas les mêmes choses, on ne dit pas les mêmes comportements. Donc vous avez des sites qui sont très... Alors là... Vous ne le voyez pas, mais des sites qui sont aussi des sites spécialisés avec plein de niches. Donc ici, on a des sites généralistes, mais tout le long ici, ce sont des niches de pratiques sexuelles différentes. Donc, qui se sont énormément développées avec ce qu'on appelle dans le jargon du web 2.0, le développement des folksonomies, des tagages, des étiquettes, du tag. Donc, d'associer des étiquettes permettant de décrire les contenus, avec des logiques qui sont rodées depuis des années dans ces sites-là, où ce sont les utilisateurs qui vont proposer éventuellement des étiquettes supplémentaires pour affiner le référencement de la ressource. Donc là encore, on est dans des sites qui ont été innovants du point de vue des technologies. Ça veut dire aussi derrière que ces sites-là, eh bien effectivement, ils alimentent des millions de personnes en contenu numérique. Donc ça veut dire que les hébergeurs, eh bien, ils doivent faire face à des charges technologiques qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on est capable d'avoir un Internet qui est relativement fiable pour toutes les autres pratiques. Parce que grâce à ces sites-là, eh bien, on a dû avoir des machines qui étaient performantes, des machines qui répondaient, et des réseaux qui pouvaient continuer à fonctionner sans bloquer les autres activités parallèles. Le site qui est en haut est un des sites qui gagne le plus d'argent, qui est un des plus visités, et c'est un site en fait qui pointe essentiellement vers des webcams. Donc des webcams de gens qui vont gagner de l'argent en s'exhibant devant leur caméra. Ça va être des femmes, ça va être des hommes qui appartiennent à des réseaux. Et ces réseaux-là et ces gens sont payés par les clients qui sont en face d'eux à s'exhiber de façon plus ou moins explicite selon les endroits, etc., selon ce qu'on leur demande, mais qui vont avoir des échanges de cette façon-là. Et qui sont des trucs qui fonctionnent relativement bien depuis des années. J'avais une personne que je connaissais qui était en pointe sur les technologies de conception web il y a quelques années dans une autre université où je travaillais. Et puis elle était chargée de former les étudiants à faire des sites web. Mais son activité professionnelle, puisque c'était une professionnelle à côté de ça, son activité professionnelle, elle était d'avoir une boutique de sextoys et puis d'avoir aussi tout un tas de petites caméras comme ça. Et dans la région du sud de la France où elle était située, elle avait une dizaine de femmes qui venaient travailler pour elle, travailler depuis chez elle pour elle, et qui se faisaient un bon petit salaire en s'exhibant. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on avait affaire à un réseau qui était parfaitement indépendant, puisque elle n'appartenait pas à un grand groupe. Elle ne descendait pas d'une famille de Matignon ou de Macron patenté qui avait une expérience du métier depuis des années. On avait comme ça une espèce de petite industrie artisanale parfaitement étonnante et qui fonctionnait relativement bien, qui se structurait petit à petit en réseau d'indépendants francophones. Je sais pas où ils en sont depuis, mais voilà un petit peu ces fonctionnements-là. Alors, une économie adaptée au numérique. Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on a un secteur sur lequel il y a une forte demande, sur lequel il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont intéressés et qui a permis d'explorer différents modèles économiques sur Internet qui ont pu être plus ou moins adaptés après à d'autres secteurs, parce que là, on avait, je dirais, la masse critique permettant d'imaginer que ces modèles-là étaient fonctionnels ou pas. Donc, on a tester des modèles d'abonnement. Modèles d'abonnement classiques, les gens vont payer un certain prix pour avoir accès à un site pendant des mois, voire à vie selon le prix qu'ils vont y mettre, et qui leur permet d'accéder à l'ensemble des contenus du site. Vous avez des sites dont le financement repose avant tout sur la publicité, et qui sont des sites qui vont envoyer plein de publicités systématiques, et qui sont du coup dans cette espèce de gratuité et de rabattage. C'est vraiment des sites de rabattage parce que, j'ai pas une étude finalisée là-dessus, mais ce qui est à peu près sûr et certain, c'est que même si vous avez, je vous ai dit, 4 millions de vidéos sur un site, sur les sites gratuits, vous avez quand même un nombre de vidéos qui, somme toute, est restreint par rapport à la production du secteur. Ça paraît important en termes de nombre, comme je disais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en vérité, si on y regarde de près, les actrices ou les acteurs de films X font, de nos jours, on n'est plus dans les années 70, ils font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de films dans une carrière qui va durer entre 2 et 5 ans. Et quand on va sur les sites gratuits, on retrouve systématiquement, pour les plus stars entre guillemets d'entre eux, une petite dizaine de films. mais on est très loin de l'ensemble de leur filmographie. Ce qui veut donc dire qu'à un moment donné, il y a un système de régulation à l'intérieur qui fait que il y a des contenus qui ont été numérisés et mis sur les sites gratuits, et d'autres contenus qui ont peut-être été numérisés, mais qu'on ne retrouve jamais sur les sites gratuits. Parce que les sites gratuits sont généralement en lien avec les sites payants. Et qu'effectivement, ils sont en mode rabattage. Ils vont fournir un certain nombre de contenus qui, pour la personne peu exigeante, seront suffisants pour son activité fantasmatique. Mais pour la personne qui a de gros besoins fantasmatiques, ou une recherche esthétique particulière, ou une recherche de niche particulière, eh bien, à ce moment-là, elle va être réorientée grâce à ces espèces d'échantillons gratuits vers des sites plus complémentaires.
Pardon, c'est des têtes de gondole.
Oui, c'est des têtes de gondole. Tout à fait. Donc, on a cette logique-là. On a une logique aussi qui fonctionne avec une logique de produits dérivés. Vous avez des sites qui vont afficher des contenus gratuitement pour attirer des gens et ensuite renvoyer, par exemple, vers des sex shops et autres produits qui vont être achetés en ligne. D'autres moyens de financement, alors il y a eu à un moment donné une autre économie, c'est ceux qui vivent grâce à cette économie-là. Et il y a eu tout un truc, alors ça ne s'est pas développé véritablement, mais on est dans une logique qui se transfère aujourd'hui au reste de l'Internet. C'est l'idée des top level domaines. Ici vous en voyez un, c'est le .xxx. Alors vous en connaissez d'autres pas mal, des top level domaines, c'est-à-dire des domaines de premier niveau, de premier rang, .fr, .org, .com, .net, etc. Le top level domaine, c'est une hiérarchie, enfin il y a plusieurs hiérarchies, qui sont gérées par différents prestataires. Et que les domaines, les top level domaines, ne sont pas tous gérés de la même façon et avec les mêmes coûts. Le .com, le .org, il y a des règles pour y accéder qui ne sont pas les mêmes que pour acheter un .fr. Pour acheter un .com ou un .org, c'est le premier arrivé qui est servi. Et puis, il y a un prix qui est relativement basique et relativement accessible de nos jours, puisque ça doit être moins de 10 euros par an pour acheter son .org ou son .net. C'est pour ça que moi, je me frime en mettant ma bio .net. J'ai acheté mes box, ça ne coûte pas grand-chose tous les ans de l'avoir, mais ça permet, comme ça, de gérer ce truc-là. On a donc créé, à un moment donné, l'avantage de ces top-level domaines, c'est que tous les webmasters qui veulent avoir un nom de domaine, eh bien, vont acheter un sous-domaine du top-level domaine, donc ce qui sera écrit avant le point des trois dernières ou deux dernières lettres. Et aujourd'hui, on expérimente depuis le point XXI l'ouverture des top-level domaines, qui jusqu'à maintenant étaient limités à des points par pays, .fr, .es, .it, etc., etc., avec quelques points génériques qui étaient le .org, .com, .net, et puis après on avait des .edu, etc. On a vu apparaître des .info, des .tv, etc. Et aujourd'hui, on peut même avoir des villes qui achètent leurs points, par exemple, point London, et toute entreprise londonienne qui voudrait avoir son nom se terminant par point London, ou le point d'une marque d'ordinateur célèbre, eh bien, payera à cette marque-là un tarif qui sera fixé par le possesseur de la marque, et qui, pour le réseau Internet, est un moyen de monnayer une présence et la création d'un nom, d'une notoriété qui serait associée à ce nom-là. Autre secteur qui mériterait qu'on s'y intéresse de plus près, oui.
Sur les noms de domaine que vous avez cités avant, il y en a un qui est intéressant, j'ai découvert ça récemment, c'est le .tv, parce qu'en fait, il correspond aussi au nom de domaine de l'archipel de Touvel. On espère pour eux que ça leur fait des retombées concernant la menace de leur archipel. Je ne savais pas le chiffre, par contre, mais la coïncidence est...
Il y en a qui ont bénéficié effectivement de points de domaine comme ça, des pays. Il y a aussi l'Italie avec son point IT, donc ce qui permet comme ça de créer des sites en tout IT, prend tout ce qui se termine en anglais par .it, ça scoop it, etc., etc., fonctionne très bien. Il y a aussi, je ne sais plus quel pays, qui a le .me, donc qui permet d'avoir quelque chose du love.me, par exemple. Donc, ça permet comme ça d'avoir des petits jeux de mots qui fonctionnent et qui permettent effectivement à certaines nationalités d'ouvrir ce point de domaine. Mais aujourd'hui, on est dans une logique de créer des noms de domaine sur des noms communs ou des noms propres appartenant à des villes, des marques, des territoires.
Pardon, des logos.
Des logos, oui. Mais où on va pouvoir être un sous-logo du logo. Escorte et webcam, alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais qui serait intéressant à regarder, notamment par rapport aux pays qui aujourd'hui sont en train de réglementer très fortement la prostitution et faire en sorte que la prostitution sorte des rues. Alors effectivement, il y a des endroits où on chasse la prostitution des rues, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête la prostitution. Ça veut dire que la prostitution très probablement se déplace. Et notamment, eh bien, elle se déplace aujourd'hui vers les services d'escorte, vers les webcams qu'on va avoir sur Internet. Et qui font que, ben effectivement, on ne racole plus dans la rue, mais on racole sur Internet. Des problématiques qui sont posées, par contre, par les logiques de web apps, qui font que les contenus, et ça c'est presque pour faire du teasing sur ma prochaine conférence, les contenus, eh bien, sont dégagés d'une forme de neutralité des opérateurs. Les opérateurs, jusqu'à maintenant, on dit sur Internet, les opérateurs se doivent d'être neutres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à juger des contenus que demandent les gens qui circulent sur Internet, mais les opérateurs, entre guillemets, de connexion, doivent véhiculer le plus vite possible et le mieux possible les contenus qui sont sur Internet. Ce n'est pas à eux de juger. Sauf que ça, c'est en train de changer. Et j'en parlerai plus précisément la semaine prochaine, mais à titre d'exemple ici, je mets l'Apple Store, parce que aujourd'hui, on a des opérateurs qui, par exemple, pour des appareils particuliers, imposent de passer par leur boutique pour acheter des contenus ou installer des contenus simplement utilisables sur les appareils qu'ils commercialisent. Et ce sont eux, en tant qu'entité privée, qui vont s'arroger le droit de choisir la nature des contenus que vous avez le droit de consulter ou non sur leurs appareils à partir de ce que vous achetez sur le magasin. Il y a eu une affaire comme ça qui a opposé Apple à Playboy et où Apple a interdit, a empêché Playboy d'avoir une application sur l'Apple Store. Playboy a trouvé une parade, hein. Ils ont tout simplement créé un site net consultable depuis les appareils malgré tout Apple, parce que Apple ne peut pas interdire complètement l'accès au web, mais leur permettant comme ça en fait de gérer directement le truc. Mais on voit qu'on a des opérateurs, et on aurait le cas avec Amazon qui vend des Kindle pour lire des bouquins, etc., qui aujourd'hui eh bien, vont choisir en opérateur privé le point de vue moral que doivent adopter leurs clients, ou que eux veulent faire adopter à leurs clients. Qui personnellement me gêne un petit peu. Alors la recherche de l'âme sœur. Là encore, Internet n'est pas un entremetteur comme il n'y en a jamais eu, un moment ou un autre, depuis toujours, dans toutes les villes, dans tous les villages. Eh bien, il y a des marieuses, il y a des gens qui mettent les gens en relation. Dans les années 70 et dans les années 80 et même avant, hein, il y a eu une compilation de toutes les petites, un certain nombre d'annonces qui sont passées dans le Chasseur français depuis un siècle, où on voit bien que depuis un siècle, et bien en 1913, il y avait des gens qui, dans le Chasseur français, recherchaient des gens pour avoir des pratiques sadomasochistes, expliquées de façon explicite comme ça, dans le Chasseur français. Donc, ce pas des choses qui sont fondamentalement nouvelles. Mais depuis les années 90, mais surtout depuis les années 2000, ces années où on est passé dans la DSL et la connexion permanente à Internet, et un usage qui s'est fondamentalement démocratisé, eh bien les sites de rencontres se sont fortement développés. Au départ, il y avait des sites qui n'étaient pas spécifiquement des sites de rencontres, mais un forum, où des gens viennent discuter d'un thème, eh bien, selon la tournure que prend le thème, ça devient un lieu de rencontre. Les chatrooms, les endroits où les gens parlaient de façon directe, en IRC, Internet Relay Chat, c'est-à-dire les logiciels qui permettent de se retrouver dans ce qu'on appelle un salon, et de clavarder, donc de taper au clavier et puis tous discuter ensemble dans une même fenêtre ou de façon privée, ça existe depuis les années 90. Et depuis les années 90, eh bien, il y a tout un tas de logiques pour contrôler ces espaces, pour savoir qui est-ce qui y rentre, pour savoir qui peut y dire quoi, de quoi, quels sont les thèmes, qu'est-ce qu'on a le droit de raconter ou pas raconter. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais là, on se retrouve avec un web qui s'organise, qui est en train méthodiquement de proposer des sites pour mettre les gens en relation les uns avec les autres. Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on fonctionne quand même sur une logique qui est une logique de masque. Et la logique de masque, elle va permettre, sur les premiers sites de rencontre, ou sur les chats, qui sont en mode textuel, aux gens de se créer des identités, et d'échanger avec d'autres personnes, de manière aveugle. Jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement des rencontres, qu'on appelle à l'époque des blind dates, des rencontres aveugles, et où vous découvrez, parfois douloureusement, que la personne qui vous avait dit « Oh oui, j'ai quelques kilos superflus », eh ben, moi je trouvais que j'en avais quelques-uns en trop, mais finalement, je me sens bête. Donc en soi, c'est pas un jugement sur la façon d'être, notre représentation qu'on a, mais sur la représentation qu'on donne. Et on était dans des logiques où, malgré tout, on racontait ce qu'on était et on avait un certain mode de fonctionnement. Et là, petit à petit, on a quelque chose qui va s'organiser de façon beaucoup plus précise et qu'on va voir notamment avec des sites, alors j'ai mis ici amoureux.com, mais un site français bien connu qui s'appelle Mythique, qui va travailler sur les caractéristiques de la rencontre. Alors, la marieuse, elle avait déjà des critères pour essayer de mettre les gens ensemble. Mais lorsqu'on arrive dans ces sites-là, eh bien, on se retrouve avec des sites qui vont, là encore, construire des espèces de niches de matching, qui vont construire de nouvelles formes d'adoption de normes. Alors, on a le choix entre plein de normes. Mais on va dire en quoi on est croyant, si on est ceci, si on est cela, si on aime la bonne chair, si on est quelqu'un de svelte, si on aime le bio, etc., etc. Et où petit à petit, eh bien, on fait un profilage de la personne idéalisée qui est un portrait robot terriblement exigeant. Terriblement exigeant et qui en même temps est terriblement normatif. Normatif peut-être par rapport à soi, mais on ne laisse pas la place à l'autre d'être tel qu'il est. On est un autre qui répond à des critères, qui répond à un système de filtrage. Et ce système de filtrage, s'il est relativement ouvert sur des sites généralistes comme le sont éventuellement Mythique, eh bien aujourd'hui, on arrive à avoir des sites de rencontres qui sont des sites de rencontres ultra-communautaires. Ultra-communautaires, c'est qu'on va avoir des sites pour que se rencontrent des jeunes chrétiens, des jeunes de droite, des jeunes de gauche. Mais on ne prend pas le risque de rencontrer quelqu'un qui ne fréquente pas la même église que nous. Même si on va plus à l'église. La même chapelle, on va dire. Donc, on voit bien qu'ici, on a à la fois un outil qui, à un moment donné, permettait de rencontrer des gens qu'on n'attendait pas, et qui, au contraire, en sens inverse, de façon paradoxale, nous ramène vers des gens qu'on connaît terriblement tellement ils répondent à nos attentes.
Pourquoi parlez-vous de normes ?
Je parle de normes, alors je le mets vraiment au pluriel, parce que ça veut dire que on attend des canons que les gens répondent à des valeurs précises, qu'ils fassent entre 1m65 et 1m75. Après, c'est pas une norme en particulier ou une norme dominante, même si à un moment donné on finit par avoir des normes dominantes. Mais c'est cette idée que l'autre doit d'abord rentrer dans des cases. Sans ça, il se normalise. C'est dans ce sens-là que je vais parler de normes. Donc on a quelque chose qui se ferme. Même si à côté de ça, eh bien, on a d'autres formes d'ouverture, comme je laisse apparaître ici avec la notion d'adultère, c'est qu'on a des sites qui vont, par contre, amener aussi à une remise en cause, justement, de certaines normes. Et on est bien dans une logique paradoxale. Presque paradoxale, parce que finalement, on y revient quand même d'une autre façon. Mais vous avez eu en France un site qui a fait un carton auprès des jeunes, et les jeunes filles comme les jeunes hommes, c'est Adopte un mec. Je dois dire que chez les étudiants, ça a pas mal fonctionné. Mal avec ou sans eux. Mais donc, effectivement, c'est un site qui est intéressant sur un truc, c'est qu'il y a cette idée qu'on inverse. Je disais tout à l'heure que le net de l'érotisme, de la sexualité, etc., il était à 78% du côté des hommes et puis le reste du côté des femmes. Eh bien, avec un adopteunmec.com, on a une tentative, entre guillemets, de poser les termes de façon inversée. C'est-à-dire que ce ne sont plus les hommes qui définissent le fantasme, ce ne sont plus les hommes qui construisent le fantasme. En vérité, c'est bien plus complexe que ça, et dans un sens, et dans l'autre. Mais n'empêche qu'on est dans une logique, et c'est en ça qu'il me semblait important de parler au début de sexualité avec un S. C'est que Internet va à la fois développer une sexualité, une représentation de l'amour et de la vie sexuelle très normative, où c'est Monsieur Ken et Madame Barbie, un papa et une maman qu'on va avoir essentiellement partout. Mais il n'en reste pas moins que c'est un espace à l'intérieur duquel toute la diversité existe et où il y a des niches où les gens peuvent se reconnaître et s'identifier comme on ne pouvait pas le faire jusqu'à l'arrivée d'Internet. Des lieux où les gens vont pouvoir s'exprimer, où ils vont pouvoir fantasmer, où ils vont pouvoir avoir une construction de leur sexualité, un travail, une réflexion, peu importe, mais qui est ouvert, comme on n'a pas eu d'autres endroits pour le faire véritablement jusqu'à maintenant. Avec la possibilité d'adopter des positions qui sont des positions pour approcher, découvrir, essayer de comprendre, et puis d'autres où on peut s'engager plus fortement dans ses choix. Mais avec une certaine diversité. Avec à la fois des choses qui sont très normatives et à la fois des choses qui sont paradoxalement antinormatives tout en étant très normatives. Donc avec cette idée qu'il y a des sites qui aujourd'hui normalisent la relation extra-conjugale.
Il y a eu un détournement, si j'ai bien compris, donc Adopte un juif.
Oui. Oui, oui. Mais ça partait d'adopter un chien.
Oui,
ça partait d'adopter un chien d'abord. Hein. Donc, toutes les affiches qu'on avait de la SPA ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Donc, effectivement, on est dans une logique. On a ensuite tout un tas de détournements qui se sont faits dessus. Alors, les amateurs et le libertinage, c'est que j'ai dit qu'il y avait une économie, et ça fait le lien avec ce que je disais préalablement, c'est que Internet a laissé libre cours à se développer un ensemble d'espaces érotiques, sexuels et amoureux qui sont hors modèle économique ou qui sont parallèles à des modèles économiques. Et qu'on a tout un tas de blogs, tout un tas de sites tenus par des amateurs qui vont raconter leur vie, qui vont se mettre en scène, qui vont fantasmer, qui vont raconter des histoires. Donc on a tout un tas d'espaces qui sont affranchis des grands réseaux, qu'il y a une visibilité qui est reprise à certains moments par les industries du sexe. Mais il n'empêche que même si elles sont reprises par les industries du sexe, les amateurs et entre guillemets les vrais existent. Il y a un truc qui est particulier qui s'est développé aussi en pointe du côté là encore de l'érotisme, mais qui se retrouve ensuite notamment dans la culture. C'est tout ce qui relève de ce qu'on appelle les pro-âmes. Les pro-âmes, c'est des gens qui sont à la fois des pros et à la fois des amateurs. Ou plus exactement, des amateurs experts. et où on va avoir tout un tas, tout un circuit qui existe aujourd'hui, qui alimente le monde pornographique, avec des gens qui font ça occasionnellement, parce que ça leur plaît. Ça leur rapporte quelques sous à droite à gauche, mais parce que ça leur plaît, parce qu'ils aiment bien s'exhiber, parce qu'ils sont dans ce modèle-là à un moment. Et pour certains, pourquoi pas en faire un métier? Pour d'autres, c'est juste un passe-temps. Mais ils sont dans une logique qui crée une forme d'authenticité. Et cette forme d'authenticité, elle est reprise par les industries au travers de ce que j'appellerais le style Gonzo. Donc, le style Gonzo, c'était dans le journalisme, à une époque dans les années 60, où c'était d'aller vivre la vie, entre guillemets, au plus près, et au plus trash quand elle était trash. Le style Gonzo, c'est de se servir de cette approche un petit peu amateur pour être au plus proche de l'authenticité. Et donc, vous avez tout un tas de gens qui vont utiliser ces espèces d'esthétiques de sextape qui sont au départ parfaitement involontaires. Rappelez-vous la sextape du début avec Paris Hilton. C'est d'une mauvaise qualité. Mais ce qui fait la force fantasmatique du truc, c'est que ça a l'air d'être fait par monsieur et madame tout le monde. On entre dans la génération de The Girl Next Door, de la voisine d'à côté. Et d'avoir, du coup, une normalisation de la sexualité qui est tellement forte, avec des Barbies de tous les côtés, des seins siliconés en long, en large et en travers, des verges qui sont gonflées d'une manière ou d'une autre, à coups de piqûre ou tout ce que vous voudrez, qu'à un moment donné, ce qui fait fantasmer, ça n'est plus ni Ken ni Barbie, mais quelqu'un qui est juste à côté, quelqu'un qui nous ressemble. Et donc à partir de ce moment-là, y compris les professionnels essayent de produire des choses qui ressemblent à du cinéma amateur. Avec un avantage pour eux, c'est que ça coûte vachement moins cher que lorsqu'ils ont à travailler sur des scénarios qui sont a priori, et puis des décors qui vont leur coûter cher, etc., etc. Mais là, on va faire un tournage sur un parking avec une mauvaise caméra. Et parce que c'est une mauvaise caméra, eh bien, on a l'impression que ça a été fait avec un téléphone portable et que du coup, eh bien, c'est un instant volé. Donc, cette diapo reprend un petit peu cette idée que je disais tout à l'heure, qu'on a une évolution du guide de la sexualité ordinaire, qu'aujourd'hui sur Internet, eh bien, il y a des endroits qui sont un petit peu trash, ou qui sont très explicites comme ceux dont j'ai parlé, mais où il y a tout un tas d'endroits où la parole sur la sexualité s'ouvre. Alors notamment, vous voyez qu'en bas, je mets un site comme Doctissimo, parce que dans les forums de Doctissimo, eh bien, vous avez plein de gens qui vont venir raconter, écouter, lire comment les autres vivent leur sexualité. Comment ils vont dire des choses qu'ils n'arriveraient pas à dire ou à écouter de la part de leur médecin, avec leur médecin ou avec leur copine. Donc on a des endroits où les gens vont s'apercevoir que finalement ils ne sont pas anormaux. On n'est pas forcément dans la recherche de la normalité, mais de la non-anormalité. Qu'on a effectivement toute une industrie qui a transformé aussi le rapport à la sexualité comme étant quelque chose, quelque part, de beaucoup plus ludique. Et si on compare ce que les jeunes connaissaient à 18 ans, il y a 20 ans, et ce que les jeunes ont pu voir ou connaître aujourd'hui, eh bien, à la fois, ils sont plus émancipés, ils voient plus de choses, et donc, on peut imaginer que derrière ça, eh bien, ils sont un petit peu plus décoincés sur des trucs, un peu, c'est pas forcément évident, parce qu'à côté de ça, il y a effectivement un autre poids de la norme, c'est que la sexualité maintenant, c'est Rocco Siffredi qui devient un modèle. C'est pas facile de concurrencer Rocco Siffredi de la même façon que c'est pas facile de faire du sport si on veut se comparer systématiquement à un perchiste qui va battre un record du monde. Les dangers, les principaux dangers qu'il y a autour d'Internet, il y a des dangers qui sont autour du proxénétisme, de la pédophilie, etc., qui sont des dangers réels. Mais de plus en plus, au quotidien, on va avoir des choses qui sont liées au détournement ou à l'altération de la qualité de notre identité au quotidien, notre identité sur Internet. Puisque ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre aujourd'hui. On doit apprendre à vivre aujourd'hui que, effectivement, on a des appareils de plus en plus souvent qui sont capables de tout capter, de capter ce qu'on fait, de capter ce qu'on dit, de l'enregistrer visuellement ou de façon sonore. Maintenant, aujourd'hui, quand vous participez à une réunion, eh ben, vous devez être attentif à tout ce que vous dites. Parce que si vous avez la moindre personne qui a son téléphone portable ou qui a son ordinateur, vous pouvez être certain qu'il est en train d'enregistrer. Et on n'a pas besoin d'attendre que ce soit un secrétaire de l'Élysée qui se fasse choper. Je peux vous garantir que je sais que dans mon département, à chaque réunion, j'ai des collègues qui enregistrent tout. Donc, on est dans des logiques qui se font systématiquement. Qu'on est dans des logiques où, effectivement, on a des appareils mobiles qui sont très pratiques pour prendre des photos et les conserver. Et qu'on peut très facilement poster des contenus sur Internet. Mais qu'à partir du moment où un contenu est posté sur Internet, eh bien, il est parti sur Internet. Et il ne sera plus jamais, jamais rattrapable. Le principe de base, il est là. Y compris, avec peut-être, vous en avez entendu parler, d'une application qui s'appelle Snapchat. Donc, qui est une application qui permet de prendre une photo avec son téléphone mobile pour l'envoyer à quelqu'un, pour la consulter quelques secondes seulement, et ensuite la photo est autodétruite. Mais il ne faut pas rêver. À partir du moment où un contenu circule et que quelqu'un va le voir, forcément, il sera recaptable. Il n'y a pas, on ne peut pas empêcher un ordinateur, un autre appareil photo, de capter ce qui va passer par sa mémoire. Un ordinateur, ça fonctionne d'abord et avant tout grâce à sa mémoire. Il passe son temps à copier des choses entre le disque dur et la mémoire, le disque dur et autre chose. Donc tout ce qui sera affiché passera par sa mémoire et il pourra s'en rappeler d'une manière ou d'une autre, il y aura quelqu'un qui saura faire. Donc, toute photo, eh bien, c'est une photo qui pourra être détournée. Quand je parle des maladies informatiquement transmissibles, c'est vrai aussi que la sexualité ou la tendresse ou le manque de tendresse sont fortement exploités sur Internet pour faire notamment ce qu'on va appeler de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ce sont des gens qui vont eux-mêmes révéler des informations qui vont mettre en danger leur propre informatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont révéler un mot de passe. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont dire où ils sont. Ils vont dire ce qu'ils font. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là aussi je fais du teasing pour une prochaine fois, les réseaux sociaux sont des outils particulièrement intéressants pour les cambrioleurs, parce que grâce aux réseaux sociaux, et en particulier lorsqu'ils vous géolocalisent, et bien comme ça on peut savoir si vous êtes chez vous ou pas. Donc si on a du temps ou pas. Et quand quelqu'un va dire sur sa page machin, chouette, je suis enfin parti en vacances, vous n'avez plus qu'à trouver son adresse. Et la vie est belle, vous avez trouvé un appartement pour les 15 prochains jours. Alors, quelques petites bricoles sur les choses qui peuvent nous échapper. Ça, c'est un truc qui a beaucoup amusé les jeunes, qui doivent peut-être en amuser encore quelques-uns. Oui.
Juste un instant, addiction.
Oui.
Un petit coup de l'œil.
Alors, sur les addictions, et on est dans cette situation que Internet, on peut y accéder de façon permanente, à un coût zéro, avec des contenus en abîme, sans fond, sans fin, et qui font qu'effectivement, quelqu'un peut à un moment donné décrocher. Je pensais notamment à un phénomène qu'on appelait l'otakisme. L'otakisme, c'est le fait que quelqu'un va se renfermer chez lui et communiquer avec le monde extérieur uniquement par l'intermédiaire de son ordinateur. Que par son ordinateur, il va aussi bien se faire livrer une pizza que finalement n'aimer que des héroïnes de manga. C'est un terme qui vient du Japon.
Comme Norvège.
Pardon ?
Les hikikomori.
Peut-être. C'est toi le spécialiste. Oui, non, mais j'en suis persuadé. C'est toi le spécialiste des addictions. Mais on est dans une logique où effectivement les gens peuvent se retrouver tout seuls. Et quand on dit qu'ils peuvent se retrouver tout seuls, ils peuvent se retrouver vraiment tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation, par exemple, qu'on a pu connaître avec les addictions au jeu lorsque quelqu'un est addicté au jeu dans un espace social comme peut l'être un casino. Parce que dans un casino, on peut le repérer. Quand il est chez lui, on ne peut pas le repérer. On peut le repérer qu'à partir du moment où il se désocialise totalement, qu'il avait un travail et qu'il n'y va plus. Mais s'il passe sa journée à télécharger des films, parce qu'il va pouvoir en télécharger toute la journée, personne ne va s'en apercevoir, personne ne va le contrôler. Et à partir de ce moment-là, là, il est dans un système qui ne communique plus avec rien. Et duquel il ne peut pas avoir ces retours de réalité à l'intérieur desquels il va pouvoir s'accrocher pour sortir éventuellement de son addiction. Parce qu'elle va pouvoir se nourrir en permanence, en permanence. Donc c'est là qu'il y a un risque addictif. Il y a un autre risque, c'est qu'effectivement on peut jouer sur les masques et puis séduire des tas et des tas de personnes. Et changer de masque en permanence. Et où vous avez des gens qui du coup vont être dans une situation de séduction permanente, d'être à la recherche permanente aussi d'une espèce de martingale. Et c'est là qu'il y a aussi un truc qui est addictant, c'est-à-dire qu'on se dit que le clic d'après, je toucherai au but. Le clic d'après, je trouverai la personne idéale, je trouverai le clic que j'attendais depuis des heures, etc., etc. Et donc on repousse toujours un petit peu plus loin et on entretient en permanence une recherche qui est toujours suffisamment imparfaite pour pouvoir avoir, entre guillemets, une bonne mauvaise raison de continuer.
Le propre du désir, il est infini, donc tu ne peux jamais l'approcher.
Voilà. Sur les dédipiques, donc les dédipiques, c'est un truc qui se pratiquait notamment chez les ados, qui a commencé chez les ados il y a quelques années, pas seulement chez les ados. Mais c'est le fait d'envoyer à quelqu'un une photographie qu'on prend d'une partie de son corps avec une dédicace. Donc dédi pour dédicace et pix pour picture, image, photo en anglais. Donc dédi pix, c'est une image dédicacée qu'on envoie via son téléphone mobile, qu'on envoie via son ordinateur. Et on est persuadé que la dédi pix, a priori, il y a celui qui la reçoit qui va... qui va la garder, la conserver, qui va la garder que pour lui. Je ne crois pas que les gens soient naïfs. Moi, personnellement, je suis persuadé que les gens ne sont jamais naïfs. Et je pense que, systématiquement, quand ils envoient une image comme ça, de la même façon que lorsqu'ils écrivent un journal personnel, c'est que, secrètement, ils savent et ils imaginent qu'un jour, il sera lu. Parce que si on ne veut pas que quelque chose soit lu, si on ne veut pas que quelque chose soit vu, eh bien, on le garde dans sa tête. Si on le montre, et bien c'est qu'on sait que ça va être véhiculé. Les jeunes le savent aussi. Ce qu'ils ne prévoient pas malgré tout, ce qu'ils ne mesurent pas, c'est ce qui peut se passer sur des sites comme celui qui est ici. Qui sont des sites où là c'est My Ex, alors au départ c'était des sites qui étaient My Ex Girlfriend ou My Ex Boyfriend. Celui-ci, et bien c'est mon ex tout court. Et j'ai masqué des trucs parce que, ben effectivement, les gens vont aller ramener leur galerie de photos, des photos qu'ils ont prises du temps où ils étaient amoureux, entre guillemets, où ils avaient une relation avec quelqu'un, et ils ont pris un certain nombre de photos qu'ils ont gardées pendant des années, puis le jour où ils se sont fait larguer, et ben ils décident de les rendre publiques, d'une façon comme une autre de se venger. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas montrées, c'est un truc qui fonctionne un petit peu en sens inverse, c'est-à-dire que là, sur ce site-là, les gens vont révéler des photos de nus qui ont pu être prises, etc., des photos des bains, des vidéos, etc. Mais vous avez le phénomène inverse qui se passe. C'est la création, grâce aux outils d'infographie qui sont maintenant suffisamment performants pour ça, de faire ce qu'on appelle des fakes, des faux. Et donc, vous prenez une photo avec des gens qui font un débat, et puis vous remplacez la tête d'une des personnes par une autre personne. Et à partir de ce moment-là, vous créez un faux. Si vous avez un tout petit peu de toucher infographique, vous arrivez à faire des choses qui sont pas mal en termes de, de donner l'impression que c'est plus vrai que nature. Donc, ensuite, vous faites circuler ces photos-là sur des réseaux sociaux ou sur des sites de ce type-là, et puis vous pourrissez la vie des gens. Il existe même des sites spécialisés dans le concours de fake. C'est-à-dire qu'il y a une rubrique qui s'appelle fake, où il y a des gens qui viennent mettre les photos de leur ancien petit copain, de leur ancienne petite copine, en demandant aux gens qui fréquentent le site de faire des fakes à partir de ces photos-là. Et donc comme ça, ils se retrouvent quelques heures ou quelques semaines après, selon l'inspiration des fakers, avec tout un tas de photos qui font plus ou moins vrai. Alors il y en a quelques-unes qui ne font pas suffisamment vrai, parce qu'on aura eu l'impression que leur ancien petit copain ou leur ancienne petite copine avait tourné avec des acteurs X prestigieux, mais et qui avait un corps de rêve qui inspire un certain doute éventuellement sur l'authenticité de la photo. Mais vous avez des gens, j'ai vu des fakes qui sont faits y compris à partir de photos avec des acteurs porno, où les gens vont recréer les fakers, un effet Gonzo. C'est-à-dire qu'ils vont altérer la qualité de l'image pour arriver à avoir suffisamment de flou à certains endroits, suffisamment de grains de granulés, ils vont changer les couleurs de l'image pour avoir l'impression que c'est une photo qui a été faite de nuit avec un appareil infrarouge. Et on reconnaît quand même les gens. Ah, il y en a qui se font du mal. Hein. Alors, il y a des lois qui commencent à exister. Il y a des pays qui vont réguler. C'est en Australie, dans l'état de Victoria, que, effectivement, faire détruire la notoriété de quelqu'un en diffusant des photos sans son consentement sur Internet, eh bien, c'est répréhensible par la loi. Il en reste pas moins que quand le mal est fait, quand les photos sont parties sur un site, elles sont récupérées par des gens qui visitent ce site-là et qui vont aller les mettre sur des sites participatifs en disant que c'est des photos amateurs qu'eux ont récupérées, puis quelqu'un d'autre va les récupérer pour les mettre dans un autre album, sur un autre site, etc., etc. Donc une fois que c'est parti, et même si vous condamnez la personne, eh bien, le mal est fait. Et donc, je pense malgré tout que ça fait partie de ces choses auxquelles nous allons informationnellement, dans notre culture de l'information, dans notre culture du numérique, eh bien, apprendre à vivre avec ce genre de logique et avoir une ouverture avec le temps, critique à ce qu'on voit, qui fait que ben, c'est pas parce qu'on voit qu'on y croira. Alors la difficulté, ça sera de dire qu'est-ce que je dois croire quand je le vois. Ça va être un autre problème. Mais on va être dans cette logique dont j'avais déjà parlé, il me semble, l'année dernière, qui était de dire dans les années 70, si on avait dit à quelqu'un qui fumait un pétard dans les années 70, eh bien, fumer un pétard dans les années 70 fera que tu ne seras jamais président des États-Unis, eh bien, Bill Clinton a prouvé le contraire, que c'était possible. Et aujourd'hui, ça choque, entre guillemets, plus personne. En tout cas, on sait que c'est possible. Et ça aurait pu arriver à un ou plusieurs de nos anciens présidents, personne, sur ce domaine-là, aujourd'hui, se dirait, ben, ça l'a empêché de conduire la France correctement. De toute façon, ils n'y sont pas arrivés les uns ni les autres. Et ils étaient plus sous Peter. Ça ne veut pas dire qu'en y étant, ils auraient fait mieux. Je pense qu'ils sont quand même congénitalement tout cela. Mais, donc, au-delà de ça, on est quand même dans une logique qui est de dire, eh bien, oui, on va être obligé, un, d'apprendre à vivre avec des phénomènes de ce type-là, et de les anticiper aussi préalablement. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, on ne va plus forcément, de façon anodine, accepter d'être photographié. En même temps, ben, on voit bien qu'on se retrouve dans une situation qui est difficile aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi facile de prendre des photos, et ça va bientôt être particulièrement difficile de diffuser la moindre photo. Là encore, c'est un truc que je disais il y a quelques mois tard. Mon problème quand je fais un diaporama aujourd'hui, c'est de me dire, bah oui, je fais un diaporama, pour qu'il soit sympa, je mets des photos, parce qu'il y a plein de photos de partout. Mais maintenant, je passe plus de temps à me poser la question des droits sur les photos que j'utilise que sur le contenu que je vais mettre à l'intérieur du diaporama. C'est plus compliqué de tracer, de traquer, et de savoir d'où je sors chacune des images que de savoir ce que je vais dire sur chacune des images.
C'est copyright donc du cas, là.
C'est le copyright d'un côté. On a d'un côté tout ce qui est effectivement droit sur l'image. Et puis d'un autre côté, le droit à l'image. Donc on a tout un tas de droits qui sont autour de l'image. Et puis après, on a tout un tas de choses qui sont sur ce qui est toléré ou pas, ce qu'on peut montrer comme image ou pas. Alors là, j'ai pas pris de risque. À certains moments, j'ai effectivement flouté une partie des images. Mais jusqu'où je peux les présenter sans les flouter. En sachant que tous les sites que j'ai présentés ne nécessitent aucune authentification particulière. En gros, c'est des sites où pour pouvoir y avoir accès, on me demande si j'ai 18 ans ou plus. Et auquel cas, je clique sur le bon truc. Et pour ne pas me tromper, il y en a un qui est en vert, il y en a un qui est en rouge. Cet après-midi, je devais rajouter quelques images. Je dois vous dire que j'étais stressé parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc j'avais mon fils qui traînait dans la maison. Donc quand même qu'à un moment donné, je sois attentif à ce que il ne me trouve pas en train de regarder des sites pornographiques en plein milieu de l'après-midi. Ça aurait été difficile à défendre. Non, c'est pas vrai, c'était facile. J'avais le programme juste à côté de moi et j'avais mis en jaune. Papa, faire un truc ce soir à l'université populaire, c'est normal que... Même que c'est pas normal, malgré tout, éventuellement. Donc, on est sur l'idée que les nouvelles technologies n'échappent pas à l'emprise du désir. Il y a un domaine que j'ai pas complètement abordé, c'est le domaine du cybersexe. Mais je ne désespère pas de faire à cette fois un teasing pour l'année prochaine, on sait jamais, d'être autour de trucs qui parlent de... Et donc de m'intéresser donc aux technologies périphériques qui peuvent être associées au corps, que j'ai pas présenté ici, mais où on a tout un tas de choses aujourd'hui qui vont des costumes permettant aux gens de vivre une réalité sexuelle virtuelle, mais bel et bien ressentie. Parce qu'ils vont avoir des trucs qui descendent des treilleuses électriques, une treilleuse électrique sur port USB. Depuis quelques années, vous avez aussi le High Vibrator. Donc, qui est un petit appareil qui est très stylé, très bouqué, très fin, qui est blanc, qui pourrait avoir une petite pomme quelque part, et qui permet de pêcher autrement. Donc voilà, peut-être s'intéresser à des choses de ce type. Bon, il y a plein de trucs qui sont là-dessus. Je confierai malgré tout mon diaporama, du coup à Françoise pour qu'il puisse être récupéré en ligne. J'avais envisagé de vous dire qu'il y avait des photos qui étaient fakées et des photos qui n'étaient pas fakées où j'étais présent dessus. Ben, c'est pas vrai. Enfin, peut-être. Donc voilà, différents liens qui permettent éventuellement de compléter un petit peu différentes choses que j'aurais pu dire. Et puis, je suis ouvert à vos différentes... questions, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté ce soir. Voilà, je vous remercie.